En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on place le corps en méditation. On ne cherche pas à créer un état d'esprit quelconque. On est simplement conscient de ce qui se passe dans le présent, de ce que vit l'esprit dans le présent. Et ce qu'il vit, les phénomènes en termes de pensée, sensation, perception, formation mentale. Nous sommes conscients de ces phénomènes, mais on ne s'accroche pas aux phénomènes agréables. Et on ne rejette pas non plus les phénomènes désagréables. Avant de reprendre la suite de l'enseignement, j'aimerais que vous me disiez si vous rencontrez, enfin, comment se passe votre pratique. Si vous rencontrez des difficultés, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que voilà, comment ça se passe? Ceux qui veulent dire quelque chose. Non, Nicole?
Non.
Non.
Pas devant tout le monde.
D'accord. Oui, Isabelle.
Moi, je trouve que ça ne se passe pas.
Ça se passe pas mal?
Ça se passe, ça ne se passe pas.
Ça ne se passe pas, c'est-à-dire?
Je ne trouve pas que je... Depuis le début, que je découvre des choses...
Est-ce que vous arrivez à méditer tous les jours?
On va dire à 85%.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites quand vous méditez? C'est ça qui...
Déjà, je fais le calme.
Oui.
Et puis, quand mon esprit, je sens qu'il est apaisé un peu, je me mets un peu dans la tongue à savoir que je sais pas, c'est là où ben, je sais pas où je vois des où je vois rien où je vois des où je vois rien mais du noir du d'obscur ou du ou alors des fois j'ai mais c'est le fruit de mes pensées tout ça en fait.
Ouais.
Je suis consciente que si je pense à quelque chose, je vois un soleil immense. Et parce que j'y ai pensé, ce ne sont pas des choses qui viennent spontanément. Enfin, j'ai peut-être rien compris.
Mais il n'y a rien à attendre que des choses viennent, que des choses apparaissent. C'est lorsqu'il se passe quelque chose, sans parler de l'actongue déjà, Simplement, au niveau de chiner le calme mental, c'est lorsqu'il se passe quelque chose, vous laissez passer. Vous êtes conscient qu'il y a ce phénomène qui apparaît, si c'est une pensée par exemple, et vous vous entraînez à simplement, après avoir pris conscience de la présence de ce phénomène, de le laisser passer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Cela va vous permettre de vous entraîner à ne pas saisir ce qui se passe. S'il ne se passe rien, c'est très bien. N'attendez pas à ce qu'il se passe quelque chose. Mais on a quand même tout le temps, ou très régulièrement, des pensées qui émergent, des sensations. Même là, pendant ces 20 minutes de méditation, vous avez peut-être eu des sensations, des perceptions de quelque chose. Comment réagit-on quand on est en présence de tel ou tel phénomène? Voilà. Et c'est là où on médite ou on ne médite pas. Soit on médite, soit on ne médite pas. On médite quand on est conscient de ce phénomène et qu'on arrive à le laisser passer. En le laissant passer, on se rend compte qu'il est impermanent, qu'il est du mouvement et qu'il n'a pas la nature de demeurer dans l'esprit. Est-ce que ça, vous arrivez à en méditation, à laisser passer des phénomènes et à expérimenter que si vous le laissez passer, 30 secondes après, il a totalement disparu de votre esprit.
Oui, ça m'arrive.
Voilà, voilà.
Oui, quand même.
Voilà. Et bien ça, c'est chiné. Ça, c'est chiné. Et quel que soit, alors il faut s'entraîner à agir de cette façon-là, quel que soit le phénomène qui se présente à l'esprit. Pas seulement les pensées qu'on trouve sympas, mais il y a des pensées qui ne sont pas du tout sympas, mais elles sont liées à tout un ensemble de causes, de conditions qui font que, elles apparaissent et elles sont légitimes d'apparaître, parce qu'elles sont le fruit de quelque chose. Et je les traite, si je peux dire, de la même façon que des pensées agréables. Donc je ne porte pas de jugement sur le phénomène lui-même. Et cette façon d'agir par rapport au phénomène fait que le calme s'installe dans l'esprit parce que il n'y a plus de saisie. Et sans la saisie, l'esprit demeure calme et paisible. Donc ça, c'est la méditation de chiner, c'est la pacification mentale. Chiner, ce n'est pas être concentré sur une chose dans la non-distraction. La non-distraction, c'est ne pas saisir. Et on peut ressentir l'esprit calme alors qu'il y a plein de phénomènes, qu'il y a plein de pensées, plein de sensations, etc. Donc ça, il faut vraiment s'entraîner à cela et le faire dans une grande souplesse, dans une grande détente. Et ne pas attendre que le calme s'installe. Ne pas attendre que un certain état que je considère comme étant un état de calme s'installe dans l'esprit.
Ce qu'on recherche.
Il n'y a rien à rechercher. Il n'y a rien à rechercher.
Mais je croyais qu'il fallait commencer par ça, par s'apaiser,
non, se calmer. Non, c'est l'apaisement va se mettre en place à partir du moment où, bien qu'étant consciente des phénomènes, vous ne les saisissez pas. Votre esprit ne sera plus perturbé par la présence de tel ou tel phénomène. Et donc, il va rester calme, tranquille. Donc, même si l'esprit est agité, si vous ne saisissez pas, l'esprit va rester calme.
Oui, j'ai toujours un peu ce problème-là, quand même, de ne pas saisir, des fois, mais par contre, ça refoule. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais disons que je m'aperçois qu'il y a une pensée et pof, elle disparaît.
Et alors, c'est très bien ça.
Oui, mais c'est pas en douceur. C'est j'y pense, ça y est, je dis pas, il y a une pensée, tu vois, elle est partie.
Mais est-ce que l'esprit à ce moment-là reste tranquille? Et voilà, si elle disparaît, elle disparaît. Pourquoi faut-il qu'elle disparaisse
Non, je pensais que ça avait un rapport avec le refoulement.
Pas forcément, non, pas forcément. Non, non. À partir du moment, il faut être conscient de la pensée, par exemple, mais vous restez comme ça. Vous savez, à ce moment-là, qu'il y a une pensée qui traverse l'esprit. Si c'est difficile de rester comme ça dans la non-saisie, il faut placer l'esprit sur un support tel que la respiration. Ça, ça aide. Mais vous méditez depuis plusieurs années maintenant, donc le support, il y en a, à mon avis, il n'y en a plus besoin. Quoi. Sauf si vraiment l'esprit est agité, là vous savez qu'il est agité, donc vous savez que vous avez besoin du support. Mais c'est temporaire. Quand l'esprit est moins agité, il faut à ce moment-là abandonner le support.
Oui, j'en prends pas souvent.
Ouais. Et plus vous allez vous entraîner à ne pas saisir, plus cette non-saisie va s'installer de façon, on va dire, plus naturelle au sein même de votre activité, et pas seulement lorsque vous êtes en train de méditer. Et là, ça doit apporter des changements dans votre quotidien. Ça doit apporter des changements dans votre façon ordinaire de réagir face à tel ou tel phénomène, dans telle ou telle situation. On se rend compte qu'il y a moins de saisie dans l'esprit. Donc, moins de facteurs perturbateurs. Plus de qualité, plus de compassion, plus d'attention à l'autre, etc. Mais ça, voilà, il faut s'entraîner. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre moyen. Même le Bouddha n'a pas montré qu'il y avait... Eh bien, un moyen qui permet cela de s'installer alors qu'on ne médite pas, quoi. Il n'a pas trouvé. Mais il faut faire ça avec beaucoup de détente. Beaucoup d'humour aussi par rapport à ce qui se passe, par rapport à tel ou tel phénomène présent. Surtout ne pas porter de jugement sur le tel type de pensée, tel type de phénomène, sur notre pratique, sur notre façon de pratiquer, etc. Il n'y a pas à porter de jugement là-dessus. Il faut pratiquer, avoir confiance que cette pratique, peu à peu, va installer le calme mental dans notre esprit. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Oui ?
Moi, depuis quelques semaines, j'ai beaucoup plus de mal à méditer. Et en fait, ça vient, je pense, que parce que je me suis mise à en fait dire le mantra d'Amitabha. Et je sens que maintenant, j'ai besoin de continuer avec un mantra. Je n'arrive plus à trouver mon calme comme ça.
C'est très bien.
Oui, mais moi, je suis de temps en temps en train de me dire non, il faut que j'arrête de dire. Il faut que je pense à ma respiration. Donc je suis
Non. Ça... Non.
Et je sens que j'ai besoin de continuer avec un support.
Très bien, c'est un support.
Oui, mais c'est pas.
Mais on parle beaucoup de la respiration comme support parce qu'on est toujours en train de respirer, donc on peut trouver ce support où que l'on soit. Mais peu importe, si vous avez l'habitude de prendre pour support le mantra d'Amitabha, c'est très bien, continuez comme ça. Vraiment, continuez comme ça.
Maintenant, je suis en train de lutter, ouvrir les yeux, je ferme, je réouvre, je ferme, parce que je sais que je ne dois pas les fermer complètement, je ne dois pas être... C'est un peu ridicule, on est d'accord, mais...
Oui, c'est ce qui, se produit dans votre esprit. Le fait d'ouvrir les... D'accord. Mais le fait d'ouvrir les yeux, quand vous marchez, vous pouvez même intérieurement réciter le mantra d'Amitabha, vous n'avez pas les yeux fermés. Donc,
J'ai l'impression de ne pas arriver à intérioriser avec les yeux ouverts.
Mais qu'est-ce que ça veut dire intérioriser ?
Comment dire ? Je suis très dans le visuel et en fait, comme mes yeux sont ouverts, je suis constamment en train d'observer tout. Et du coup, mon esprit travaille constamment.
J'ai cette sensation. Et alors, le fait de fermer les yeux.
C'est gênant pour la méditation.
Et le fait de fermer les yeux alors?
Ben, je suis dans le noir. Et si moi ça me calme quand même, ça me calme les yeux. Mais je sais que c'est.
Ben, bon, si vous avez besoin de vous calmer, de ok, fermez les yeux, mais pas toute la méditation. Quand vous sentez que l'esprit est plus calme, à ce moment-là, ouvrez les yeux. Et voyez s'il y a une différence entre les yeux fermés et les yeux ouverts. Mais quel genre de différence alors?
Mon esprit se met en ébullition à voir tout ce qu'il y a, en fait.
Et alors, si votre esprit est en ébullition, en quoi c'est un problème? Si vous avez en plus comme un support tel que le mantra d'Amitabha, lorsque votre esprit est en ébullition, bah vous le ramenez sur le support et vous êtes très consciente de votre mantra d'Amitabha.
Chez moi, c'est un tout petit peu plus facile parce que quand je suis seule, je mets une bougie et quand j'ai les yeux ouverts, je regarde la flamme.
Oui.
Et autour, c'est sombre. Donc ici, les couleurs, ça perturbe complètement.
Et oui, mais là, il y a un travail à faire pour ne pas être perturbé malgré l'environnement. Parce que si vous habituez votre esprit à associer méditation et un environnement spécial, il vous sera très difficile de méditer quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes en train d'avoir une activité quelconque. Donc, la méditation ne doit pas nous couper, c'est juste un entraînement. Pourquoi on médite dans un environnement quand même plus propice? Pour favoriser la méditation, cet entraînement. Mais cet entraînement doit rendre la méditation possible où que l'on se trouve, dans quelque situation que l'on se trouve. Voilà. Et ça, il faut s'entraîner à ça. Alors, mixez les deux peut-être. Commencez comme vous avez l'habitude de faire, quand vous sentez que l'esprit est apaisé, ouvrez lentement les yeux, et puis continuez, mais sans tension, sans contrainte, et à ce moment-là, placez bien votre attention sur le mantra d'Amitabha, et puis, dès qu'il se passe quelque chose, vous lâchez, ça n'a aucune importance, et vous replacez votre esprit sur le mantra. Mais tout ça de façon... détendu, pas du tout crispé, mais n'attendez pas un état quelconque spécial que doit vous apporter la méditation. Il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, tout se passe bien, on est extrêmement détendu. Le lendemain, sans aucune raison apparente, on est tendu, distrait. Ça ne va pas, l'esprit n'a pas envie de se poser, on s'ennuie, etc. Peu importe, on applique, on applique, on applique. On fait nos gammes, on fait nos gammes. Autre chose? Oui? À vous? Alors, c'est-à-dire? Qu'est-ce que...
je parle pas très fort. Je disais, grâce aux enseignements de Laurent et puis des vôtres, de Lama, j'ai plutôt l'impression d'avancer vite, d'accepter... les choses viennent beaucoup plus facilement.
Les choses viennent plus facilement. Je traduis.
Ouais. et puis, y a beaucoup de manifestations qui arrivent. Et puis la méditation se passe, quoi, comme vous dites. Il y a des jours, ça part dans tous les sens. Et puis il y a des jours, tout est ouvert, comme ça, ici. C'est lumineux, donc éclairé.
Oui, c'est un peu comme ça qu'il faut aborder la pratique. Ne rien attendre de spécial, juste appliquer, appliquer, appliquer. Il y a des jours, il se passe quelque chose, il y a des jours, il se passe rien du tout, on s'ennuie à mourir.
C'est sûr.
Eh oui, ben c'est comme ça. C'est comme ça. Alors là, ça ramène à la question, est-ce que je vois l'utilité de la méditation? Pourquoi est-ce que je médite? Voilà. Est-ce que vraiment je vois que la méditation transforme petit à petit mon esprit. Quand on commence à constater cela, même les jours où ça ne va pas, on a envie quand même de méditer parce qu'on voit l'utilité de la pratique. Et l'utilité de la pratique, hein, quand je parle d'expérience de la pratique, ça ne consiste pas à ressentir quelque chose de spécial, à avoir des espèces de visions ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est juste, mon esprit est plus paisible. Je suis moins agressif, moins énervé, moins prompt à la colère, mais davantage dans l'écoute, davantage, je suis davantage sensible à la souffrance d'autrui. Voilà. Quand ça se passe comme ça, ou plus de confiance aussi dans le dharma, bon, bah alors ça, ce sont des signes qui montrent que la méditation fait son travail. Mais ce n'est pas évident tous les jours. Il y a des jours où vous ne ressentez rien du tout. C'est au bout de 6 mois où vous vous rendez compte que il y a quand même des petits changements dans l'esprit qui se vivent, quoi. Et on ne peut pas se dire à chaque fois, chaque jour, en se levant de sa méditation, oh, c'était le pied, c'était le bonheur, la félicité, oh, vivement demain que je remédite, etc. Ça ne se passe pas comme ça, quoi. C'est bon, hein?
Ouais. J'ai la sensation, moi, que c'est plus l'enseignement que j'ai avec vous et avec Laurent,
ouais,
qui me permet d'être plus calme, d'avoir plus de compassion, plus d'écoute, d'être plus... Et que pour le moment, les effets de la méditation, alors peut-être qu'effectivement, je n'ai pas les 6 mois, hein, moi derrière moi, et que, effectivement, que je continue, parce que je le ressens... Pour moi, c'est moins fort que l'enseignement. Par contre, ça...
La méditation va permettre en fait de pratiquer l'enseignement, de mettre en pratique l'enseignement, de le vivre. Sinon, il n'y a qu'une compréhension intellectuelle de l'enseignement. Et il faut pouvoir le vivre. Et pour pouvoir le vivre, il faut modifier le fonctionnement de notre esprit. Il faut voir en quoi notre esprit, dans son fonctionnement ordinaire, ne permet pas le développement de la compassion. Par exemple, on en parlait hier à Nancy, est-ce que vous êtes sûr que la saisie bloque la compassion, bloque la bodhicitta relative? Voilà. Ça, c'est une question que vous devez vous poser et à laquelle vous devez répondre par votre expérience, par l'observation et par la mise en pratique et de la non-saisie. Que se passe-t-il dans votre esprit quand vous ne saisissez pas? Quand vous saisissez, est-ce qu'il y a de la place, de l'espace pour la compassion, pour l'amour, etc. Voilà. Et ça, quand on a la réponse par l'observation de l'esprit, ça c'est une expérience. C'est pas juste j'adhère à ce que dit le dharma et voilà, j'expérimente ça. Quand on l'expérimente, après ça devient évident de méditer. Et tout dans notre pratique du dharma, je pense, doit passer par cette expérience. Les textes ne sont là que pour nous stimuler, ne sont là que pour nous montrer que tel maître qui commande tel texte, eh bien... On sent dans sa façon de commenter un texte l'expérience qui est derrière. Donc cette expérience est possible. On peut la vivre aussi. Il n'y a pas de différence entre les maîtres et nous. Simplement, ils sont plus avancés sur le chemin, mais leur esprit a fonctionné comme le nôtre fonctionne aujourd'hui. Ils ont rencontré les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes périodes d'ennui, de lassitude, de remise en question, etc. Le Dalai Lama a rencontré tout ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, quoi. La seule différence, c'est que lui, il est plus avancé sur le chemin, voire il a terminé le chemin, que nous sommes encore en chemin. C'est tout, quoi. C'est la seule différence. Alors dans ce sens-là, les textes, oui, nous permettent de nous inspirer sur le chemin, d'établir notre confiance dans le dharma. Les textes aussi nous montrent les différents aspects de notre esprit. Et ça c'est important, parce que on ne peut pas forcément les voir comme ça d'emblée, par nous-mêmes. Donc que des maîtres nous expliquent la nature de l'esprit, même si nous n'avons pas encore goûté à la nature de l'esprit, bon, c'est inspirant que de savoir comment le faire, quoi, comment suivre tel cheminement.
Mais par moments, des fois, j'ai l'impression de régresser.
Ça, c'est le meilleur signe. Ça, c'est le meilleur signe.
C'est vrai, le signe de quoi?
De stabilité de l'esprit. Mais oui, il ne faut surtout pas s'arrêter quand on a ce genre d'expérience, sentiment de régresser, d'avoir davantage de pensées, que notre esprit est beaucoup plus agité que lorsque je ne méditais pas, par exemple. Mais ça, c'est le premier signe du calme mental. C'est paradoxal. En fait, on a moins d'agitation, on a moins de phénomènes, mais par la méditation, nous sommes davantage conscients de tous les phénomènes. Et nous sommes surtout conscients des phénomènes qui sont beaucoup plus subtils et dont on n'avait pas conscience quand notre esprit était dans son fonctionnement ordinaire. Donc ça nous donne l'impression, eh bien, de pas avancer ou de reculer, etc. C'est juste une impression. Il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Il faut reconnaître que c'est le premier signe du calme mental. Donc c'est une bonne expérience. Oui.
Question au jeu. Je vois bien la certaine efficacité, pour passer le bon mot, mais pour passer sur de la colère, pour savoir dire non, pour persévérer, tout ça. Par contre, il y a quelque chose, je trouve, ça bute et je trouve ça ne joue pas du tout. C'est sur certaines inquiétudes. Pour des choses précises qui sont pour mes enfants, par exemple, des choses de santé, des choses comme ça, où là, une inquiétude mentale, une construction qui se fait, qui me paraît extrêmement logique, et je n'arrive pas à me dire que c'est une construction, parce que je pense que, là, pour le coup, c'est vrai, et je n'arrive pas à le voir comme une colère, par exemple, bah, je sais que voilà, c'est moi qui réagis comme une colère, mais là, me dire que ce n'est qu'une construction mentale, alors que je suis en fait logiquement sûr que voilà, c'est quelque chose de vrai, j'arrive pas ça à le faire passer comme une construction mentale. J'ai l'impression de me tromper et de me dire que ce n'en est pas du tout.
Je pense que dans ce genre de questions, il ne faut pas se dire que c'est simplement une construction mentale. Votre inquiétude, elle est logique, elle est légitime. Si votre enfant, un de vos enfants n'est pas bien au niveau santé, que vous ayez de l'inquiétude, c'est complètement logique, quoi. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'inquiétude, à la limite. Voilà.
Mais si que ce soit donc quelque chose de premier signe, de quelque chose de grave, exagéré pour le coup, qui soit pas juste.
Oui, mais ça c'est le fonctionnement de l'esprit. Maintenant. Quand je dis qu'il faut laisser passer tous les phénomènes, cette inquiétude est un phénomène. Donc il faut l'aborder comme une pensée, comme une sensation, comme une perception. Ça, c'est un facteur mental. Et vous l'abordez de la même façon. Donc il n'y a pas à craindre l'inquiétude, il n'y a pas à se dire « Moi, depuis que je médite, je suis toujours inquiet, donc il n'y a pas d'effet. » Il faut aborder l'inquiétude en se disant « Bon, elle a sa logique, elle est là. De toute façon, elle est là, je ne peux pas la... Hein. » Mais je la considère comme un phénomène. C'est-à-dire que tout en étant là, je ne m'agrippe pas à cette inquiétude. Vous allez me dire, ça, c'est pas facile, parce que ça touche en plus, par exemple, un de vos enfants, donc là, hein, c'est très fort. Mais il faut s'entraîner de cette façon-là. C'est un phénomène, je le laisse passer, quoi. Et ce n'est pas de l'indifférence qui va s'installer à la place. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour faire face à l'état de santé de votre enfant. Mais cette inquiétude, d'abord, elle ne sert à rien. Et ensuite, si vous ne la saisissez pas, elle va s'apaiser. Donc votre esprit sera beaucoup plus calme pour faire face à la situation.
C'est difficile à s'apaiser celle-là, parce que autant quelque chose qui surgit, encore une fois une colère, c'est plus facile de la regarder et puis de la dissiper, parce que mais quand on a l'impression et vraiment que c'est quelque chose de grave, c'est difficile de la voir comme une construction, parce que justement on pense que ce n'en est pas une.
Oui, mais si vous ne pouvez pas ne pas saisir ce phénomène, vous le saisirez. Donc, vous pourrez ne pas le saisir quand vous serez bien entraîné sur des phénomènes tels que la colère ou la moindre pensée, etc. Ça, c'est le formatage de notre esprit. Et dans des situations telles que vous décrivez, c'est impossible au début de ne pas saisir ce genre de facteur mental, quoi. Je crois que un pratiquant qui arrive à ne pas saisir ce type de facteurs mentaux, alors que ça peut être très fort, ça n'est que le fruit d'années de pratique. Je crois que la pratique est très progressive, et il ne faut surtout pas se dire, parce que je ne peux pas ne pas saisir ce facteur mental, eh bien la méditation n'est pas ne fonctionne pas, quoi. Il y a des facteurs mentaux, ça ira mieux dans 10 ans, quoi. En gros.
Ça, c'est des angoisses.
Vous appelez ça angoisse, vous appelez ça inquiétude. Ce sont des facteurs mentaux. Ce sont des facteurs mentaux. Voilà. Alors, il y a des tas de conditions pour que ça apparaisse dans l'esprit. Il y a ce qui se passe par rapport à nos proches, mais il y a nos formatages personnels aussi. On peut être inquiet de nature, etc. Hein. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que la méditation, c'est une méthode, c'est un processus qui transforme peu à peu notre esprit. Et on ne peut pas s'attendre à ce que notre esprit reste calme dans une situation très prégnante, très violente même peut-être, si on ne s'est pas entraîné pendant des années dans des situations tout à fait gérables, entre guillemets, quoi. En d'autres termes, je ne crois pas au miracle, quoi. C'est le fruit de notre pratique. Et même aujourd'hui, le Dalai Lama, Rinpoche Rinpoche, dans un ouvrage, explique que le Dalai Lama, un jour, on lui a annoncé la mort d'un enfant qu'il connaissait, il a éclaté en sanglots, quoi. Donc, il n'est pas sans facteur mental. Mais ça n'a pas duré. Aussitôt, ça a disparu parce qu'il n'y avait pas de saisie là-dessus. Alors là aussi, il faut comprendre que le calme mental, ce n'est pas un état dans lequel il n'y a plus de phénomène. Dalai Lama disait qu'il lui arrive encore d'être en colère. Calme mental, c'est pas un électroencéphalogramme plat, quoi. Il se passe des choses quand même. Seulement, il n'y a pas de saisie. Donc, ça se dissout instantanément. Donc, chez lui, il peut y avoir de la colère, mais elle disparaît instantanément. Donc, son esprit reste vraiment tranquille, quoi. Bon, alors, on va reprendre le texte. On arrive dans les strophes 12, 13, 14, 15. Et là, on voit que Tomé Zampo, il est comme ça, quoi. C'est-à-dire, il est très, très exigeant. Alors, ça nous rappelle qu'un bodhisattva, c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas que de ses proches, mais qui s'occupe de tous les êtres, qui a pour motivation la libération de tous les êtres sans exception, et qu'il ne peut pas pratiquer la bodhicitta, à la fois la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime, sans s'engager de tout son être, quoi. Alors c'est un petit peu ce que nous rappellent c'est les strophes dans lesquelles on est pour le moment. Parce que vous allez voir, quand on lit ces strophes-là, on en est, mais alors vraiment, bodhisattva minus, et on se dit, je ne peux pas être comme ça, donc autant ouvrir le gaz dès ce soir.
Toi, oui,
ce
soir.
Alors, la 12e strophe. Même si quelqu'un poussé par une avidité excessive nous a dérobé toutes nos richesses, ou a poussé d'autres à commettre un tel acte, lui offrir notre corps, nos possessions et les vertus des trois temps est la pratique d'un bodhisattva. Je vous la relis. Même si quelqu'un poussé par une avidité excessive nous a dérobé toutes nos richesses, ou a poussé d'autres à commettre un tel acte, lui offrir notre corps, nos possessions et les vertus des trois temps est la pratique d'un bodhisattva. Vous imaginez, vous êtes là ce soir, et vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous retrouvez votre maison complètement dévalisée. Eh bien, il faudra vous dire, voilà, dans la strophe 12, voilà comment il faut réagir, quoi. Un peu hard, quand même. Alors, pourquoi Tevé Zangpo développe ce genre de choses? Parce que le bodhisattva est quelqu'un qui veut libérer tous les êtres de la souffrance. Il ne peut pas concevoir que, par sa façon d'être, il crée de la souffrance. Et ça me rappelle Drukchen Rinpoche, qui disait, dans un enseignement, un jour, il disait « Moi, je veux bien libérer tous les êtres, sauf ce chien qui m'a mordu quand j'étais gamin.
»
Et on a tous un chien dans les parages, en fait. On a toujours quelqu'un dans les parages qui... on veut bien libérer tous les êtres. Alors, celui-ci... ou alors vraiment en dernier, quoi. Souvenez-vous de situations... hein, où quelqu'un, par exemple, nous a fait beaucoup de tort. Il y a même 10 ans, peut-être, de ça. Même peut-être plus. Mais, voilà, comme dit Nicole, quand on y pense, c'est toujours là, quoi. Hein? Et on a tous quelqu'un, on a tous vécu une situation quand même comme ça. Et ben, là, je crois qu'il faut travailler là-dessus, quoi. La façon pratique de mettre en pratique ou de méditer cette strophe-là, de la pratiquer... c'est de se replonger dans une situation qu'on a vécue en prenant pour support eh bien, cette situation-là. Est-ce que j'ai du ressentiment encore aujourd'hui? Est-ce que j'ai une envie de nuire? Est-ce que j'ai envie de me venger? Où est le pardon là-dedans? Alors ça ne veut pas dire que c'est facile, hein? Je suis bien d'accord. Ce n'est pas facile. Mais le Bouddha n'a jamais dit qu'être bodhisattva, c'était facile. Alors, Tevé Zangpo, il donne la solution, c'est la solution ultime. Si on arrive à agir ou répondre à la situation de cette façon-là, on est vraiment alors un bodhisattva accompli, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. Donc, on peut peut-être ne pas répondre tout de suite de cette façon. Mais ultimement, c'est de cette façon-là dont il faudra répondre si ça nous arrive. Pourquoi? Parce que si... ce voleur dérobe tous mes biens, il accumule du karma négatif. Il accumule du karma négatif, donc il accumule de futures souffrances, des graines de futures souffrances. Par contre, si je donne mes biens, si je me dis non, il n'a rien volé, c'est moi qui lui ai tout donné, il n'y a plus de karma. Et ça, c'est l'attitude d'un bodhisattva, puisque son attitude ne peut pas créer de la souffrance. Mais, donc ça, il faut comprendre... que dans notre esprit, nous avons quelque chose à transformer, à modifier. Cela ne veut pas dire que si vous êtes dévalisé ce soir, vous ne devez pas aller porter plainte demain matin. Quoi, hein. Ça, c'est... voilà. Et ça serait totalement idiot. Quoi. Hein. Et je trouve que, par exemple, par rapport à la non-violence, c'est assez mal compris, ça, en Occident. La non-violence, on voit comme étant une espèce de passivité, d'acceptation, sans réagir à ce qui se passe. C'est pas ça du tout, je pense. La situation, si elle exige une réponse et ferme, on doit répondre fermement. Par contre, la réponse ne doit pas être dictée par la violence, par de la haine, etc. Mais voilà, si vous devez porter plainte, quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Pardon ?
L'exemple de Gandhi.
Oui, l'exemple de Gandhi, franchement, il a agi contre les Anglais, contre l'occupation Mais il a agi, il n'est pas resté là comme ça à recevoir les coups, quoi. Le Dalai Lama agit pour la situation au Tibet, mais il a toujours interdit de réagir par la violence. Il n'est pas d'accord pour les Tibétains qui, même sur place, eh bien, réagissent par la violence. Ça, c'est une grande différence. Mais ça n'a rien à voir avec la passivité. Hein ? Vous vouliez dire, Michel ?
Oui, je veux dire, parler du pardon. Ce que j'ai remarqué, comme je suis assez âgée, alors forcément, des fois, il y a des retours en arrière et il y a des trucs qui remontent tout d'un coup. Et j'ai remarqué des fois, en méditation, je pense à des personnes à qui j'ai la compassion, des très proches. Alors, j'arrive à pardonner, à penser qu'ils sont peut-être dans un autre monde, aller à leur souhaiter des bonnes choses et tout ça. Et puis, mais c'est jamais définitif, ça. Tout d'un coup, ça revient. 6 mois après, tout d'un coup, j'ai remarqué en effet que c'est lié à l'état intérieur. Quoi,
oui.
C'est des choses qui sont cristallisées, quoi. Alors, ça. Et alors, il faut refaire ce travail.
La mémoire. Et ce travail, c'est à refaire, mais jusqu'à l'éveil, quoi. Ouais, jusqu'à l'éveil.
Il n'y a rien de définitif. Quoi.
Pourquoi il n'y a rien de définitif ? Pourquoi ?
Parce que notre état change.
Qu'est-ce qui fait obstacle à la stabilité de tel ou tel état que l'on peut avoir occasionnellement ?
Parce que ça revient, les pensées.
Oui, bah pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ?
On ne va pas digérer, parce qu'il y a de la saisie en permanence.
Comment ?
Parce qu'il y a de la saisie, non ?
Oui, il y a de la saisie, mais pourquoi il y a de la saisie ? Pourquoi ce n'est pas stable ?
Les tendances.
Oui, c'est exactement ça. C'est le voile des tendances qui est là. Et les tendances, ce sont des empreintes, des habitudes qu'on a données à notre esprit. Et c'est très puissant comme voile. C'est très puissant. C'est le dernier voile vraiment à pouvoir se purifier. Kalo Rinpoche, l'ancien Kalo Rinpoche, prenait cet exemple d'une feuille de papier qui a été pliée pendant des années et des années. Vous pouvez la déplier, la repasser, etc. Il y aura toujours la marque du pli. Voilà, c'est ça un peu les tendances. Même aujourd'hui, le karmapa, il a un caractère coléreux. Ça, c'est une tendance. Et bien, même s'il a pris le vœu de ne plus jamais se mettre en colère de sa vie, à mon avis, de temps en temps, il a envie de se mettre en colère. Seulement, il gère très bien ça, il contrôle très bien. Voilà. Mais ça c'est une tendance. Eh bien, on est bourré de tendances. On fonctionne aussi par nos tendances. C'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Il faut accepter le fait d'avoir ces empreintes. Et il faut se dire, mais jusqu'à la fin de ma vie, je vais avoir ces empreintes, ces tendances-là. Par contre, comment est-ce que je réagis à chaque fois que cette tendance s'élève dans mon esprit ? Et ça m'appartient. Et c'est ça la pratique. À chaque fois que cette tendance apparaît, je sais en gros ce qu'il faut faire. Donc j'applique. Alors que dit Rinpoche là-dessus ? Il parle de... Il dit, l'exemple donné ici est celui de quelqu'un qui, poussé par un grand désir, vole toutes nos possessions. Que devrions-nous faire en pareille situation ? Devrions-nous haïr la personne ou devrions-nous essayer de comprendre pourquoi elle a agi de cette manière ? Les personnes qui commettent des actes négatifs sont réellement ignorantes de ce qui est bon ou mauvais. Elles sont comme quelqu'un de malade ou comme quelqu'un qui est devenu fou, dans le sens où elles ne se rendent pas compte que leurs actions vont générer des résultats négatifs pour elles-mêmes. Voilà. Donc là, le commentaire appuie sur la compréhension de l'ignorance fondamentale. Quelqu'un qui agit sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs est sous l'emprise de l'ignorance fondamentale. L'ignorance fondamentale, c'est vraiment comme une maladie, quoi. Il faut voir ce comportement comme un comportement de quelqu'un de malade. Rinpoche, par exemple, ne dit jamais qu'il faut quitter le samsara. Il dit toujours qu'il faut quitter l'état d'esprit samsarique. Ça, je trouve que c'est très important de prendre la deuxième expression. quitter le samsara. Vous avez encore des pratiquants dans les centres aujourd'hui qui imaginent que quitter le samsara, ça consiste à quitter le monde dans lequel on vit, ça consiste à quitter notre planète, etc. Par contre, quand Rinpoche dit ça consiste à quitter l'état d'esprit samsarique, l'état d'esprit samsarique, il se trouve où ? Dans notre esprit. Les tendances fondamentales, l'ignorance fondamentale, c'est le fonctionnement ordinaire de notre esprit. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes des êtres ayant un état d'esprit samsarique. Et il n'y a pas à se prendre la tête avec ça. Il y a juste à être conscient que cet état d'esprit ne peut pas nous conduire à l'éveil, ne peut pas nous permettre de nous libérer de la souffrance, ni nous-mêmes, ni autrui. Donc, ce comportement est contraire à notre motivation de Bodhisattva. Mais il n'y a pas à monter sur ces grands chevaux parce que nous avons un comportement issu d'un état d'esprit samsarique. Il y a des personnes sans arrêt, hein, régulièrement. Il y a des personnes qui viennent et qui disent oh, « Celui-là, il pratique le dharma et voilà comment il a agi. Ben, » c'est tout à fait normal. Hein. Tant que nous ne sommes pas éveillés, nous sommes en état d'esprit samsarique, même si nous pratiquons le dharma. Il n'y a pas à attendre que les pratiquants du dharma soient parfaits, quoi. Il n'y a que les bouddhas qui sont parfaits. Mais tant que nous sommes sur le chemin, nous sommes encore soumis à l'état d'esprit samsarique. Donc c'est tout va bien, tout est normal. Et ça, il y a beaucoup de réflexions de ce genre. On porte des jugements sur un tel, et qui plus est, oh, ben, c'est un pratiquant du dharma, et voilà comment il agit, etc. Ben non, tout va bien, c'est normal, il n'est pas encore Bouddha. Mais au moins, il se soigne. Il y en a qui ont cet état d'esprit samsarique, mais qui n'en sont pas conscients, ou qui n'acceptent pas de se soigner. Un pratiquant du dharma, c'est quelqu'un qui est conscient de sa maladie, l'ignorance fondamentale, mais qui a confiance dans le traitement et qui applique le traitement parce qu'il a vraiment envie eh bien, de se soigner de cette ignorance fondamentale avec, pour principal symptôme, la saisie. Donc, un bodhisattva doit comprendre ça aussi, quoi. Si il y a un voleur qui vient... tout dérobé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas porter plainte demain, mais ça veut dire aussi que je comprends qu'il a agi sous l'emprise de tel ou tel facteur perturbateur, et donc c'est l'état samsarique dans toute sa splendeur, si je puis dire. Donc, dit Rinpoche, à partir de cette compréhension, eh bien, nous aurons le sentiment qu'ils ont besoin, que ces êtres-là ont besoin d'être traités avec compréhension et compassion plutôt qu'avec haine. Alors, Rinpoche termine la strophe en disant « La chose la plus importante à apprendre de cette strophe pour un débutant est de ne pas nourrir de ressentiment. » Voilà. Eh bien, nous en sommes à la 12e strophe. Est-ce que nous n'avons pas de ressentiment par rapport à quelqu'un qui nous a nui il y a même plusieurs années de ça ? Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si je n'ai pas du tout de ressentiment, bon, bah, tout va bien, je peux passer à la strophe 13 à la limite. Mais si j'ai du ressentiment, voilà sur quoi doit porter mon travail de Bodhisattva. Je crois que la méditation, dans son ensemble, de façon générale, mais la pratique de Bodhisattva, mais c'est quelque chose qui doit nous déformater, quoi. Qui doit nous bousculer dans nos jugements, dans nos façons d'agir, ordinaires, etc. Et cette transformation de l'esprit, ça ne va pas se faire tout seul. Moi, je ne crois absolument pas que la transformation de l'esprit peut se faire simplement par le fait de réciter des mantras ou par le fait d'être très proche d'un maître. Est-ce que vous savez ce que disait le Karmapa, le 16e Karmapa, par rapport à ses proches, ceux qui gravitaient autour de lui? Il disait « Mes disciples on va avoir une renaissance extrêmement favorable pour réaliser l'éveil s'il ne le réalise pas dans cette vie. Mon entourage, ce sera les, il ne disait pas ce sera les enfers, mais il disait ce seront des renaissances extrêmement difficiles pour réaliser l'éveil. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très très grosse saisie
sur le maître,
sur le fait d'avoir une espèce de pouvoir par rapport au maître, etc. Dans l'entourage du Dalai Lama, dans l'entourage du Karmapa, c'est sa puissance. Et alors là, vous dites, ah ben bravo, si on ne pratique pas le dharma, même si on vit tous les jours auprès d'un très grand maître, il n'y a aucune transformation de l'esprit. La seule transformation, c'est pire.
Oui. Mais pourquoi ? Moi, je ne comprends pas.
Mais parce que c'est ça l'état d'esprit samsarique. L'état d'esprit samsarique, vous avez de l'orgueil, vous avez... voilà. Et être proche d'un très grand maître, vivre comme lui avec tous les avantages, les privilèges que ça implique, si vous ne travaillez pas sur votre esprit, bah, vous devenez un bouffi d'orgueil. Quoi. Voilà. Voilà. Alors, ce qui veut dire que c'est par la méditation qu'on transforme notre esprit. Ce n'est pas, il ne faut pas compter sur la présence de tel ou tel maître. La présence de tel maître peut nous inspirer pour travailler sur notre esprit. Oui, ça peut nous rebooster, ça peut nous inspirer, mais ce n'est pas la présence du maître qui va faire que notre esprit... va se transformer et ne plus être soumis à l'ignorance fondamentale. S'il suffisait de ça, mais on serait tous Bouddha, quoi. Les maîtres circulent dans la planète, ils nous rencontrent, combien de fois on les a rencontrés, et on est toujours dans un état d'esprit samsarique. La transformation d'esprit ne peut venir que par notre pratique. Et je crois que ça, c'est valable, mais pour toutes les voies spirituelles, quoi.
Pour le ressentiment, par exemple, ou des choses comme ça. Que dit l'enseignement à propos du dialogue ? Parce qu'on travaille beaucoup sur soi, sur ce ressentiment, comme vous dites, mais est-ce qu'il y a des recommandations, ou est-ce que c'est vraiment en fonction des cas, le fait de parler de ça avec les personnes avec qui on a pu avoir un problème, où le problème existe ? Est-ce que le dialogue est quelque chose qui est vu comme... Un moyen intéressant ou quelque chose à double tranchant ou est-ce qu'il y a des recommandations particulières sur la manière de l'utiliser ?
Non, le dialogue peut être un moyen pour expliquer, restaurer peut-être pour dissoudre le ressentiment ou la relation qui est difficile. Ça ne veut pas dire que ça va marcher dans tous les cas. Mais si vous pouvez montrer déjà que le ressentiment que vous pouvez avoir, eh bien, ça pèse, ça peut aussi avoir une influence positive sur l'autre dans la relation, et ça peut modifier quelque chose chez l'autre personne. Mais ça ne vous appartient plus. C'est l'autre qui va vivre ça en fonction de ses possibilités, quoi. Et présente, peut-être que dans 10 ans, il pourra vivre ça autrement, hein. Mais non, le dialogue, ouais, c'est quelque chose qui peut apaiser la relation. Ouais. Alors, les strophes 13 et 14 sont regroupées parce qu'elles traitent de la même chose. Et alors, vous allez voir, c'est encore pire que la précédente. Hein ? Même si quelqu'un vient à nous couper la tête, bien que nous ne l'ayons provoqué par la moindre faute, être compatissant et prendre ses mots sur nous est la pratique d'un bodhisattva. Et la suivante. Et la suivante. Quand quelqu'un nous blesse et nous calomnie et que ses paroles malfaisantes retentissent au sein des 3000 mondes, en retour, avec un esprit aimant, faire l'éloge de ses qualités est la pratique d'un bodhisattva. Bien. Alors la première strophe, moi, ça me fait vraiment penser, vous savez, au médecin personnel du Dalai Lama. Il est décédé maintenant.
Ah bon ?
Mais quand il était au Tibet, il a été emprisonné plusieurs années, torturé régulièrement. Et les tortures, hein, c'était une fois il a eu les ongles arrachés, ou des choses comme ça. C'était quand même Voilà, c'est une grande souffrance. Et il vivait ça régulièrement, pendant plusieurs années. Il a réussi à quitter le Tibet, il a réussi à rejoindre le Dalai Lama à Dharamsala. Et un journaliste, un jour, lui a demandé « Qu'est-ce que vous craignez le plus? Comment vous avez vécu toutes ces années dans cette prison au Tibet ?» Et il a répondu, ce qui a stupéfait le journaliste, il a répondu « Ma plus grande crainte était de perdre ma compassion pour mes bourreaux. » Eh bien, pour vivre ça, il faut avoir sacrément transformé son esprit. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le faire là dès ce soir. Mais ça veut dire aussi, cette strophe met l'accent sur le fait que il y a la possibilité de transformer notre esprit jusque-là, quoi.
Mandela, il avait dit la même chose, qu'il avait transformé l'état d'esprit de ses géoguides.
Oui, ça arrive aussi. Ouais. Et alors ça se base sur quoi? Ça se base sur la confiance que tous les êtres, même les pires, possèdent cette nature de Bouddha, possèdent cette nature de sagesse, avec compassion et amour en termes de qualité. Mais pour pouvoir le reconnaître chez les autres, il faut impérativement reconnaître cette nature de Bouddha chez soi, quoi. Ça sera très difficile de le reconnaître chez quelqu'un qui, en plus, nous fait souffrir, si nous ne sommes pas convaincus que cette nature de Bouddha est présente. Et ça, c'est un autre aspect de la pratique de Bodhisattva. Un Bodhisattva base sa pratique sur le fait qu'il peut s'améliorer et que tous les êtres peuvent s'améliorer. Parce qu'il reconnaît chez lui et en tous les êtres cette nature de Bouddha. Vous allez me dire, oui, chez certaines personnes, elle est fortement masquée. Ça, je suis bien d'accord. Hein. Mais néanmoins, elle est présente. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment pratiquer le Vajrayana, les pratiques avec visualisation et tout ça, si l'on n'est pas convaincu de cette nature de Bouddha. Il faut se rappeler que tout le Vajrayana s'appuie sur le troisième cycle d'enseignement donné par le Bouddha. Ce troisième cycle d'enseignement est la nature de Bouddha. Ce n'est pas sur la vacuité qu'est basé le Vajrayana. C'est sur cette nature de Bouddha. Donc, en tant que Bodhisattva, même si ce sont des enseignements du Sutrayana et que ce n'est pas vraiment des enseignements propres au Vajrayana, mais un Bodhisattva doit absolument avoir confiance dans sa nature de Bouddha et reconnaître cette nature de Bouddha chez tous les êtres. Alors ça, c'est difficile, je suis entièrement d'accord, mais il faut s'entraîner, quoi. Et c'est ça la pratique. Il faut commencer à s'entraîner sur nos proches.
C'est ce que je pense.
Il faut commencer à s'entraîner sur nos proches. Il faut commencer à s'entraîner sur ses enfants, sur son conjoint, sur sa famille proche, et reconnaître que quelquefois ils sont très désagréables, quelquefois ils peuvent, on n'a pas envie de les supporter, mais c'est quand même facile de reconnaître la nature de Bouddha chez nos proches, chez les personnes que l'on aime. Mais ça, c'est un élément essentiel, quoi, dans l'étape de la pratique de Bodhisattva. Vous voyez qu'on n'est pas dans un état, là, dans une espèce d'attitude de croyance. On est vraiment dans une attitude de pratique. Il faut découvrir cela en soi, quoi. Et la méditation est une méthode qui va nous permettre de travailler sur notre esprit et de découvrir cela en nous-mêmes. Mais c'est indispensable de découvrir cette nature de Bouddha. Si on n'y arrive pas, comment la découvrir? Comment la voir chez l'autre? Alors ça demande évidemment d'aller au-delà de nos formations culturelles, religieuses peut-être, notre éducation. Il faut dépasser ça. Quand on pratique le Dharma, il faut aller au-delà de tout ça. Nos conditionnements, les dépasser, les casser, les malaxer, mais aller au-delà. C'est ça véritablement pour moi la pratique. C'est pas être assis, Je suis pas en train de dénigrer le Vajrayana. Mais je repense toujours à cette voiture dans la neige à Kaguling, un mec qui tournait autour du stupa. Il neigeait, il était là, il montre de Chenrezig, l'amour, la compassion. Arrive une voiture qui patine devant le stupa, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout. C'est la femme qui est descendue, qui est allée pousser la voiture.
Oui.
Le mantra de Chenrezig, c'est être Chenrezig. Qu'aurait fait Chenrezig? Ben, il serait allé pousser la voiture. Et ça, c'est la pratique qui n'est absolument pas comprise et qui n'est pas mise en pratique. Ça, c'est pour moi, ce n'est pas de la pratique du Dharma, c'est de la superstition. C'est de croire qu'en récitant le mantra de Chenrezig sans travailler sur le moindre aspect de son esprit, parce qu'on en a récité un million, alors notre esprit va tout à coup complètement se transformer en immense sagesse et en immense compassion. Je pense que s'il récite toujours le mantra, il doit pouvoir toujours le réciter, parce que rien n'a été transformé dans l'esprit, quoi.
On va faire le vœu que si, quand même.
Pardon ?
On va faire le vœu que si.
Voilà. Mais le Dharma en Occident, on a tellement pratiqué comme
c'est
ça.
Bien, quoi.
Tellement pratiqué comme ça le Vajrayana, pendant des années et des années. Sans rien comprendre de ce qu'on faisait, sans se soucier d'observer notre esprit et son fonctionnement, on était là dans les récitations de mantras, de textes en tibétain dont on ne comprenait pas 50% de ce qu'on racontait, et on pensait que tout ça, de façon magique, ça allait complètement transformer notre esprit. Il faut arrêter. Alors, que dit Rinpoche sur ce point ? À chaque fois que les gens réagissent négativement à nos actions, nous devrions nous efforcer de voir leur situation. Pourquoi seraient-ils en colère contre nous ? Puisque les gens ne sont pas en colère tant qu'ils sont heureux. Leur colère signifie qu'ils sont malheureux et agissent négativement pour cette raison. Ils se sentent piégés et essaient de passer leurs nerfs sur les autres. Donc même si nous ne parvenons peut-être pas à les aider, pour autant, nous serons au moins en mesure de ressentir une certaine compassion. Donc, compréhension de la situation, ça va aider à modifier notre perception et donc notre réaction. Rinpoche dit, si nous-mêmes, qui suivons le chemin des bodhisattvas, haïssons les personnes négatives au lieu d'aspirer à les aider, cela contredit notre propre logique. Nous n'avons peut-être pas la force de les aimer pleinement, comme le ferait un Bouddha ou un grand Bodhisattva, mais si nous pouvons les voir sous ce jour, notre colère et notre haine diminueront. Nous ressentirons une certaine sympathie et il sera plus facile de pardonner leurs erreurs. Vous savez, on nous dit toujours qu'il faut développer la bodhicitta, il faut aimer son voisin, il faut aimer tous les êtres, etc. Quand on n'y arrive pas, comment faire ? Là, il y a des méthodes, par la méditation. Voilà. Mais ça ne se passe pas en 15 jours, c'est sûr. Donc, Rinpoche dit, selon moi, être capable de le faire constitue le point principal et le véritable test de l'authenticité de notre compassion. Et alors ça peut être testé, mais alors à tout moment dans notre quotidien. L'autre jour, je rentrais de l'Inde. En rentrant de l'aéroport, j'ai dû tarder à mettre mon clignot sur la bretelle d'autoroute. Il y a un mec derrière qui est parti comme ça, vachement énervé, et qui, en passant, m'a fait un super doigt d'honneur. Ensuite, s'est mis devant moi et qui régulièrement pilait pour que je lui rentre dedans.
Oui, oui. Bon, ça, c'est courant.
Ah ouais.
Oui, très courant.
Eh ben c'est quand même très dangereux et c'est très violent comme attitude. Hein.
Ouais.
Eh ben là, vous voyez bien votre esprit. Hein.
Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Première envie, c'était de lui faire un super doigt d'honneur aussi.
Ah.
Puis après, vous dites, c'est peut-être pas vraiment en accord avec la pratique de Bodhisattva, donc voilà, vous ne faites rien, mais ça germe quand même dans l'esprit, hein, l'idée. Voilà. Voilà. Et puis, bah, après, voilà, vous laissez faire.
Hein.
Mais c'est dans ce genre de situation, dans notre vie quotidienne, que l'on voit où l'on en est dans notre esprit. Parce que c'est facile de réciter des mantras pendant une heure par jour. Si ça débouche sur des insultes à tout moment, à toute personne qui vous agresse ou n'est pas sympathique avec vous, à quoi servent les mantras, quoi. Donc Rinpoche conclut en disant « Notre façon de réagir lorsque quelqu'un nous nuit en retour de notre bienveillance constitue l'heure de vérité pour ce qui est de la compassion. » Voilà. Et la 15e strophe, c'est dans le même genre. Lorsque quelqu'un révèle nos fautes cachées et dit du mal de nous au milieu d'une foule, lui témoigner un grand respect, le considérer comme un ami spirituel est la pratique de Bodhisattva. Alors ça, on trouve ce précepte dans plusieurs textes du Mahayana, notamment dans le texte de Lojong, l'entraînement de l'esprit, en 7 points. Considérer nos ennemis, entre guillemets, hein, comme nos meilleurs amis spirituels. Mais en fait, quand un bodhisattva, il doit pratiquer les 6 paramitas. Si personne nous met à l'épreuve, par exemple, pour la patience, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous oblige à être patient. Comment pratiquer la patience si personne ne vous impatiente? Donc en cela, notre ennemi, entre guillemets, notre meilleur ami spirituel. Vous savez, c'est très facile d'avoir de la compassion pour nos proches. Il y a dans un texte, Rinpoche dit, mais moi je n'ai pas l'occasion de développer la compassion parce que tout le monde est gentil avec moi. Il dit, tout le monde est gentil, on vient me chercher à l'aéroport, on me nourrit, on me traîne ici, on me trimballe là, on me loge dans les meilleures conditions. Ils disent, mais c'est dans les situations pénibles, adverses, que là, il y a vraiment la matière à développer la compassion. Donc la prochaine fois que vous le voyez, Rinpoche, vous pouvez le mettre à l'épreuve. Moi, cela dit, les 5 jours que j'ai passés avec lui à Strasbourg, lors du séjour du Dalai Lama, je peux vous dire que dans le privé, il est exactement le même que lorsqu'il est en public. Il n'y a aucune différence, c'est le même bonhomme, quoi. Parce que je me disais, là, je vais voir comment il est en tant que bonhomme, en tant que maître spirituel, bon, je commence à le connaître, mais en tant que bonhomme, à quoi ressemble-t-il? C'est la même chose, hein. Mais alors, la même chose. C'est ça, un grand maître. Il n'y a plus de différence. Public ou privé, c'est exactement le même. Et ça, c'était un très grand enseignement pour moi, et en plus... C'est lui qui me préparait mon petit déjeuner tous les matins, alors que franchement, ça aurait dû être le contraire, quoi. Il me disait, non, vous venez prendre le petit déjeuner dans ma chambre. J'arrivais, tout était prêt, quoi. L'eau était chaude, tout juste s'il ne trempait pas mon thé. Je veux dire, tout était prêt, quoi. Vous ne pouvez que être inspiré par un maître comme Rinpoche. Et juste à ce sujet, Rinpoche, plus je le découvre... Plus je me dis, mais que c'est pas du tout un être ordinaire, quoi. Il a une apparence ordinaire. Il n'a pas de manière, il n'y a pas de protocole. Il mange avec tout le monde, il discute avec tout le monde, etc. Mais c'est pas du tout un être ordinaire. C'est un grand maître du Mahamudra. Les vrais maîtres du Mahamudra sont comme ça. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais alors, leur esprit, leur attitude, leur comportement, c'est vraiment un exemple sur tous les plans, quoi. Et dans son enseignement à Rinpoche, jamais je n'ai rencontré un maître qui livre tout à partir de son expérience. Il y a beaucoup de maîtres qui font de la rétention d'informations. Jamais il y a de rétention d'informations chez Rinpoche Rinpoche. Jamais. La plus grande preuve qu'on a eue, c'était le dernier Soma Camp à Porto. Vous y étiez, Bernie? C'est tous les enseignements... était sur voilà ce qui se passe dans l'esprit lorsque vous méditez de cette façon. et il nous guidait à partir de son esprit. Et ça, il y a peu de maîtres qui transmettent, comme on dit, d'esprit à esprit, quoi. Bon, voilà pour la petite parenthèse, Rinpoche. Mais lors du dernier séminaire d'été à Porto. Donc voilà, pour ce soir, hein, essayez de ne pas avoir de ressentiment, de ne pas nuire, de développer cette bodhicitta, en comprenant que le développement de la bodhicitta, ce n'est pas seulement la bodhicitta relative, mais qu'il faut associer la bodhicitta ultime, la non-saisie, à tout ce que l'on peut faire de positif dans notre démarche spirituelle, quoi. Voilà, des questions là-dessus, puis après je dirais peut-être quelques mots sur, sur l'Inde. Mais est-ce que vous avez des questions là-dessus? Au niveau de l'Inde, alors je ne suis pas allé aux enseignements du Dalai Lama, il y avait 220 000 personnes, c'était impraticable, c'était... la cohue, il faut être né tibétain, quoi, pour accepter ce genre de conditions, quoi. On est écrasé, il y a quelques toilettes supplémentaires, mais vous imaginez, je pense qu'il faut une demi-heure pour aller aux toilettes, enfin, tout est à ce niveau-là. En plus, il y avait le problème de l'argent en Inde, vous savez, la démonétisation des billets de 500 et 1000 roupies, ça a été très dur pour beaucoup, beaucoup de personnes, parce que l'État a mis en circulation des billets de 2000 roupies, mais pas en quantité suffisante. Donc les Indiens ne pouvaient retirer que 5000 roupies par semaine. Mais... vous avez la moindre petite entreprise, ça bloque tout, vos liquidités, votre... voilà, donc ça mettait en péril déjà toute cette économie-là. Ensuite, les Occidentaux, eh bien, on ne pouvait changer que 70 euros par jour. Mais qu'est-ce que vous faites avec 70 euros, quoi? Et chaque jour, il fallait aller à la banque, il y avait 3 heures de queue. Alors, vous savez, ça... c'était vite fait, quoi. Et je crois que distributeurs de billets, je me demande si c'était pas encore plus bas que 70 euros. C'est quelque chose comme 35 dollars ou quelque chose comme ça par jour. Et là aussi, il y avait la queue. Enfin, bref. Bon. Voilà. Mais ça, c'était l'environnement. Sinon, à l'école, c'était... pendant 2 semaines à l'école tous les jours. Alors, il faisait un peu froid, donc l'école les derniers jours a été fermée par le gouvernement du Bihar à cause du froid. Hein. Mais ce qui était très émouvant à l'école, c'est qu'on devait remplacer 2 instits, et ce sont 2 ex-élèves, 2 anciens élèves, qui sont devenus instits à l'école. Une femme et un homme. Alors ça, c'était vraiment très émouvant, parce que, voilà, quoi. Ouais, la boucle est bouclée, comme vous dites. Comment ?
On pourrait connaître leur nom.
Sanju, pour la fille, et Dharmendra, pour le garçon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais...
rapprocher avec ceux qu'on a parrainés.
Comment ?
C'est ça, pour rapprocher avec ceux que l'on a parrainés.
Ouais. Bah, Sanju, non, c'est je sais qui était le... Et Dharmendra aussi, je sais, le parrain. Ouais. Alors, il y avait ça. Ensuite, on a 314 gamins, donc ça s'est développé. Voilà. Il y en a autant qui attendent. Donc, si vous pouvez trouver des parrains, on a encore quelques salles de classe libres. Alors, ma foi, voilà, autant les remplir. Hein. Le centre médical, ça fonctionne très bien. Il y a jusqu'à 50 personnes par jour, hein, qui viennent. Alors, c'est des petites pathologies de grippe, de rhume, de bronchite, de pathologies liées à l'enfance aussi. Dès qu'il y a une pathologie plus importante, on envoie de toute façon à une clinique à Bodh Gaya. Mais les gens sont très contents. Et les personnes, je crois, les plus contentes, c'est les femmes dans le centre, dans l'atelier de couture. Ça, vraiment, elles sont heureuses parce que ça leur donne... Comment ? Voilà, ça leur donne en tout cas un revenu. Bah, si elles, ça leur donne un diplôme reconnu par l'Inde. Et elles sont heureuses. Elles ont une formation de 2 heures par jour pendant 6 mois. Donc il y a 3 groupes chaque jour. Et même si elles n'exercent pas après avec ce revenu, le jour où le mari disparaît, elles ont quelque chose quand même pour élever leur famille. Parce que les maris disparaissent en Inde. Je ne sais pas s'ils sont enlevés, mais il y en a beaucoup qui disparaissent. Alors il y en a qui sont tués, il y en a qui meurent, hein, mais il y en a beaucoup qui disparaissent et qui abandonnent tout le monde et qui disparaissent dans l'anonymat des grandes villes, à Calcutta, Delhi ou Bombay, et dont plus personne n'a de nouvelles. Ça se passe souvent comme ça. Et puis il y a quand même des hommes qui meurent. Et la situation des veuves en Inde, c'est catastrophique quand même. C'est vraiment... Elles n'ont plus aucun statut social. Et alors, vous savez, quand elles sont mariées, elles se mettent du rouge ici dans les cheveux. Quand elles sont veuves, elles enlèvent ça. Donc, elles sont vues par tout le monde qu'elles croisent comme étant veuves. C'est la marque que, eh bien, elles sont veuves. Et elle ne retrouve pas de boulot. Ouais, c'est très compliqué pour elle. Alors, vous savez que la sœur de Rajesh, qui a perdu son mari il y a quelques mois, comme elle pouvait enseigner, et il y a eu un poste qui s'est libéré, donc on l'enseigne. Alors, de sa propre initiative, elle a écrit en hindi une lettre pour le French Committee que j'ai envoyée. Et Rajesh l'a traduite en anglais, moi j'ai traduite en français, et dans cette lettre, elle exprime toute sa reconnaissance, que, comme elle dit, c'est incroyable que vous m'ayez aidé de cette façon-là, alors qu'on ne se connaît pas.
On avait dû la voir quand on avait fait le voyage.
Non, elle n'était pas là, non, elle n'était pas encore là.
Elle n'était pas là.
Non. Voilà, sinon, Rajesh va bien, sa petite famille, ça va. La petite dernière, elle a 3 ans et demi, elle va très bien. Vous savez qu'elle a été opérée de son genou. Et ça a très bien réussi. Elle devrait resubir une intervention chirurgicale, je crois, dans 1 an. Mais ça serait la dernière. Alors qu'il y en avait 2 de prévues encore. Mais elle est en parfaite santé, tout va bien. Le fils aîné de Rajesh a déjà 11 ans. Ouais. Mais il y a un gamin, Rama, qui est en 2e année de prépa pour entrer en fac de médecine. C'est quand même très bien, quoi. Il y en a un qui travaille dans le sud de l'Inde et qui s'est trouvé un job de, on va dire, de menuisier, mais... Oui, charpentier, voilà. Et qui gagne très bien sa vie, et toute sa famille en bénéficie, quoi. Donc, non, c'est bien. Rinpoche voudrait retourner. Il était venu visiter l'école il y a quelques années, et là, il m'a dit, mais je veux retourner la visiter, quoi. Voilà. Et une chose de bien, c'est que, aussi, l'école a été choisie parmi plusieurs écoles. Et cette année, normalement, l'État du Bihar devrait nous donner une bourse correspondant à 25% des dépenses annuelles de l'école. Donc il y a un fonctionnaire qui est venu visiter l'autre jour l'école pour ça.
Ça serait vraiment bien.
Comment ?
Ça serait vraiment bien parce que comme il y a un différentiel de l'inflation et de croissance des deux pays,
ouais.
C'est vrai que le montant du parrainage...
Ouais.
Plus faible au regard des dépenses.
Ouais. Alors il faudrait, je ne sais pas là s'il y a des personnes encore dans ce cas-là, mais il faudrait vraiment que les personnes qui sont restées à 20 euros passent à 25, quoi. Hein? Quand on est passé à 25 euros par mois pour le parrainage, on n'a pas obligé les anciens parrains à passer à 25. Et ça fait 13 ans maintenant que des personnes sont à 20, et ça fait déjà plusieurs années qu'on est passé à 25. Si c'est le cas, il faut vraiment passer à 25, parce que avec 20 euros, ça ne couvre absolument plus les frais. Hein. Bah oui. Ouais. Voilà.
Pour ceux qui veulent voir la lettre, elle est publiée sur le site de l'école.
Ah oui, ah, très bien. Ouais. Voilà. Rien d'autre ? Ça va ?
On n'a pas lu de petits mots. Des...
C'est en cours, c'est en route. Ça doit être dans une soute d'avion pour le moment. Alors ça c'était aussi épique. Parce que vous imaginez, tout prenait des proportions à Bodh Gaya avec 220 000 personnes, c'était compliqué. Donc les boutiques, il y avait toujours, c'était bondé de monde, etc. Et puis cette année, j'avais dit à Rajesh, on pourrait peut-être trouver autre chose qu'une carte de vœux, quoi, comme on faisait chaque année. Alors au départ, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un calendrier. Et puis chaque mois, quand on tourne une page, bah, y a une photo différente de l'école, quoi. Sauf que les calendriers, ces calendriers-là, il fallait en faire 300 et quelques. Eh ben, c'était 700, 800 euros, quoi.
Oh.
Ouais, donc. Voilà. Et puis, il fallait les envoyer. C'était épais. Et puis, de toute façon, il y a un mec qui nous a dit, oui, je m'en occupe. Et puis, 4 jours avant mon départ, oh ben non, j'ai pas eu le temps, il y a tellement de monde. Donc, bon. Donc après, alors je me suis dit, bon, on va faire calendrier des postes. 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, avec des photos.
Avec la tête de Rajesh devant.
Voilà, par exemple. Et ça n'a pas marché non plus. Alors du coup, on est allé à Gaïa, parce que là, le temps pressait, je rentrais après, et on voulait les faire partir avant mon départ. Et donc, on est allé à Gaïa, et dans un grand truc moderne, une imprimerie, et je leur ai dit, écoutez, sur ce format-là, de photos, combien de photos vous pouvez mettre sans que ce soit des confettis, quoi. Alors on m'a dit 6. Alors j'ai dit, ok, alors on a choisi 6 photos qui représentent les différents aspects de l'école, et puis on a écrit « Bonne année 2017 », et puis voilà, quoi. Et alors ça a été envoyé avant mon départ, et alors vous savez qu'en Inde, il faut tamponner soi-même les timbres, parce que sinon, dans les postes, ils décollent le timbre, ils foutent la lettre à la poubelle et ils revendent le timbre après, quoi. Donc, voilà. Donc là, on était obligé de tamponner chaque lettre, voilà. Et ceux qui ont donné un courrier, eh bien, il y a la réponse dedans. Alors, la réponse, j'ai demandé aux gamins de répondre en hindi parce qu'ils peuvent exprimer plus de choses dans leur langue. Et Rajesh les traduisait les réponses en anglais, donc hein, et puis ensuite, moi, j'ai traduisais en français. Donc, dans l'enveloppe, vous avez la photo et vous avez le texte en hindi et agrafé la traduction en français. Voilà.
C'était du boulot.
C'était du boulot. Je n'ai absolument pas chômé. Rajesh me disait, mais si tu es venu pour les vacances, c'est raté. Alors, il y a une chose encore importante, c'est que le 31 décembre, j'ai offert un goûter à tout le personnel de l'école. Alors ça, je vous enverrai... Mais si, j'ai déjà envoyé les photos de ça.
C'est aussi sur le site.
Mais avant de goûter, j'ai demandé à toutes les personnes de se lever et de faire une minute de recueillement en hommage à tous les donateurs et à tous les parrains. Pour bien rappeler que si pour tout le monde c'est gratuit, il y en a quand même derrière qui payent, quoi. Voilà. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Et bravo Claire pour être venue ce soir.
Oui, ça fait plaisir.